Bienvenue sur les ondes de Soleil FM. Si vous nous rejoignez, c'est un nouveau plateau radiophonique que nous vous proposons ce samedi 16 mai sous le thème suivant, Camargue, terre de recherche et de santé. Deux personnes dans notre studio, deux invités avec tout d'abord honneur aux dames Nathalie Boutin-Richter qui est ingénieure de recherche CNRS. Alors, MIVEGEC, j'espère que je l'ai bien dit, coordinatrice de la ZACAM 2, bonjour. Vous pouvez dire bonjour, vous
avez... Oui, bonjour, bonjour. La ZACAM, zone atelier Camargue, zone atelier santé environnement Camargue.
Pour bon, être... on rentrera dans les précisions, ça va arriver. Et également Frédéric Thomas, s'il vous plaît, directeur de recherche CNRS également, MIVEGEC, c'est comme ça qu'on dit. Hein.
Absolument, oui.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur les ondes de Soleil FM. Alors cette Camargue, terre de recherche et de santé. Moi je me dis, comme ça je lis le titre, je me dis, oh dis donc, ils vont chercher des molécules dans la nature pour nous faire des super médicaments, des traitements. C'est ce que je vois avec le titre. Or l'enjeu n'est pas là en fait.
Non, c'est pas exactement ça. En fait, dans la zone atelier santé environnement Camargue, on considère les problèmes de santé, mais pas séparément. On considère souvent, enfin on les interprète, comme la résultante d'interactions entre les humains, les animaux et les écosystèmes. Et c'est vrai que la Camargue est un territoire qui est exceptionnel, un hotspot de biodiversité, alors avec plein d'espèces, bien sûr, espèces migratrices, des pathogènes, c'est tout à fait normal, ça fait partie des écosystèmes, des activités humaines diverses et variées, des pressions environnementales très fortes. Et l'idée de cette zone atelier santé environnement Camargue, c'est de faire dialoguer ces différents mondes en réunissant des chercheurs en écologie, en médecine, en sciences humaines et sociales, et puis aussi avec les acteurs locaux. Et c'est au travers de cette approche concertée, intégrée, intégrative que l'on peut appréhender des problématiques complexes comme les maladies zoonotiques ou l'antibiorésistance.
Hein. Alors là, je vous arrête. Moi, il me faut des traductions. Maladies zoonotiques, c'est quoi ça?
Alors, on sait aujourd'hui que 75% des nouvelles pathologies infectieuses sur la planète sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui sont dues à des agents infectieux qui circulent dans la faune sauvage et qui vont switcher sur l'espèce humaine. Dès lors que l'on est conscient de ceci, la question immédiate qui devrait venir à l'esprit de toute personne normalement constituée, c'est d'essayer de comprendre quels sont les paramètres qui font que aujourd'hui, surtout aujourd'hui, quel est l'alignement d'astres qui fait que ces pathogènes qui circulent, j'ai envie de dire paisiblement, dans la faune sauvage, vont soudainement basculer sur l'espèce humaine. Et donc ça, c'est des recherches en écologie de la santé. Voilà. Donc en fait, le problème, c'est pas simplement les animaux, c'est pas simplement les humains, c'est pas simplement l'environnement. Le problème intervient lorsqu'il y a des combinaisons spéciales à l'interface entre ces trois compartiments qui font que l'alignement d'astres fait que certains pathogènes vont passer sur l'espèce humaine, peuvent ensuite éventuellement muter, acquérir la capacité de se transmettre d'humain à humain. Et là, bah, c'est possiblement le début d'une épidémie, voire d'une pandémie avec la mondialisation des échanges.
Avant d'aller plus loin sur ce sujet, bien entendu, en quoi cette mission que vous allez mener ou que vous menez, elle est importante et même des décisions importantes ont été prises pour la mener? Parce qu'on se dit, oui, c'est une étude de plus sur cette zone si particulière de biosphère. Est-ce qu'elle est différente des autres? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un enjeu à venir prégnant, important.
Alors l'enjeu, c'est surtout la prévention. Parce que jusqu'à présent, on s'aperçoit que qu'est-ce que l'on a fait à chaque fois qu'un problème de cette nature s'est présenté? On attend que le problème soit là. Et ensuite, on essaie de gérer la situation avec des moyens qui sont contraignants, pas toujours efficaces. Hein, on se rappelle en plus du confinement, par exemple. Et puis, on s'aperçoit que ça coûte 100 fois plus cher de gérer un problème une fois qu'il est là que de le prévenir. En plus, bien sûr, ça sauverait des vies humaines. Hein. Donc notre approche, elle se situe dans la prévention du risque zoonotique. Donc d'essayer de comprendre quels sont les déterminants, avec de la science, hein, qui font que certains pathogènes vont switcher sur l'espèce humaine. Ensuite, de transformer ce savoir scientifique en des actions concrètes, une recherche plus appliquée, plus translationnelle, avec une adaptation aux différents contextes, parce que cette démarche-là, elle se fait partout dans le monde. Et le contexte, eh bien, évidemment, il change. Si vous êtes au Brésil, c'est pas la même chose que vous êtes en Afrique ou si vous êtes en Camargue. Donc en fait, il faut absolument adapter tout ceci. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros travail de co-construction. Donc vraiment, ce qui nous distingue des autres, c'est la volonté de prévenir le risque zoonotique, lutter contre la désinformation, rassurer quand il n'y a pas de risque, prévenir quand il y a un risque et dans tous les cas, essayer de trouver des solutions et de vivre surtout en harmonie avec la biodiversité.
Et alors justement, pour parler de cette force de frappe que vous allez engager dans cette démarche.
Alors Frédéric l'a bien illustré autour d'un projet et d'un axe de recherche qui est celui de l'axe des pathogènes zoonotiques. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas un seul projet. On vous a parlé de différents axes de recherche et en particulier la zone atelier santé environnement Camargue. L'enjeu, c'est que c'est un dispositif de recherche de long terme. Donc ce n'est pas un seul projet, mais c'est plusieurs et qui vont... on va dire perdurer dans le temps, qui vont aussi amener de la confiance aussi envers les acteurs du territoire et les citoyens par rapport à l'intérêt d'adhérer à ce type de dispositif qui est quand même original en termes de co-construction de la recherche pour avoir ce qu'on appelle cette démarche One S, cette démarche une seule santé et d'accompagner la recherche ou des procédures, des protocoles, d'y participer. Voilà, c'est ce qui va nous différencier d'autres. L'enjeu, c'est un dispositif de recherche de long terme.
Co-construction, quelles sont les entités en présence? Parce que lorsqu'on a préparé l'interview, on m'a parlé de public et d'un partenaire privé qui vont composer cette démarche scientifique sur le territoire.
Alors sur les unités qui sont porteuses de la zone atelier santé environnement Camargue, qui est un dispositif innovant du CNRS, donc on est la 16e zone atelier au niveau national, vous avez trois laboratoires de recherche Montpellier-Rhin du CNRS, que sont le MIVEGEC, dont vous avez entendu parler, l'IHPE, donc qui aussi s'occupe de virus, je simplifie, l'IHPE, et le CEF, vieux laboratoire de recherche interdisciplinaire aussi, qui est présent à Montpellier, mais aussi sur l'APACA, et donc un autre dispositif de recherche, un autre laboratoire donc, qui est la Tour du Valat, donc institut de recherche privé, la Tour du Valat, avec deux co-directeurs là, et donc qui s'occupent aussi des enjeux de santé, parce que dans la réalité, Frédéric en parlera mieux que moi, c'est une collaboration de long terme CNRS Tour du Valat.
Et alors vous nous avez parlé justement d'essayer d'être comme une sorte de veille sanitaire, entre guillemets, de bien comprendre tous les mécanismes. Peut-être de découvrir des solutions dans le fonctionnement de ce territoire.
Oui, notre rôle ne se limite pas à de la surveillance. Notre rôle, c'est... D'ailleurs, ce n'est même pas de la surveillance. Ça, c'est d'autres qui font ça. Nous, on est vraiment là pour faire de la recherche scientifique et essayer de comprendre quels sont les déterminants de l'émergence de zoonoses et puis ensuite d'imaginer des solutions qui viendraient éliminer, prévenir ce risque. Donc, on est vraiment dans une démarche de recherche, pas de surveillance.
Démarche de recherche, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a l'environnement... Et les hommes font partie de cet environnement, c'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir des études autour des habitants de ce territoire.
Alors, je vais vous prendre un exemple je trouve est un bel exemple de recherche appliquée, si on considère justement les antivirus. Eh bien, les antivirus, les scientifiques se sont aperçus que souvent les rongeurs, en hiver, ils adorent coloniser les cabanes de jardin parce qu'ils sont à l'abri. Et puis donc, il va y avoir des déjections pendant tout l'hiver, une activité de ces animaux. Et puis arrive le printemps et on se dit, tiens, allez, on va ouvrir la cabane de jardin, passer un bon coup de balai là-dedans. Et puis, on va remettre les choses en place. Et donc là, les gens s'infectent par aérosol par rapport aux antivirus. Et donc, ça, c'est les scientifiques qui l'ont montré. Et les solutions très concrètes, ça veut dire, par exemple, ouvrir la cabane un jour où il y a du vent, ne pas y rentrer tout de suite. Et puis, s'il y a un coup de balai à donner, mettre un masque. Donc, on est vraiment sur un savoir scientifique. Et puis, ensuite, la recherche de solutions. Et quand on fait ça, il n'y a plus de problème.
Là, c'est une démarche qui est pragmatique, qui semble évidente quand vous nous l'expliquez, bien entendu, surtout que le réflexe du masque, on va dire qu'on l'a eu pendant une petite période et on a bien compris que ça avait un intérêt. Il y a des pathologies qui vont illustrer justement ces travaux de recherche que vous allez mener, que l'on connaît justement, qui passent d'une espèce à l'autre et des fois à destination de l'homme, qui sont présentes sur ce territoire.
Oui, c'est tout à fait normal. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait qu'il y ait des pathogènes sur un territoire, c'est complètement normal, ils font partie de la biodiversité, ils ont même un rôle extrêmement important dans le fonctionnement des écosystèmes, de régulation des populations, de structuration des communautés. Donc l'idée, c'est absolument pas de dire on va essayer d'éradiquer les pathogènes, absolument pas. Donc l'idée, c'est simplement de réussir à vivre en harmonie avec la biodiversité sans avoir les éventuels désagréments qu'elle peut véhiculer, les désagréments sanitaires. Et pour ça, il faut vraiment de la recherche scientifique. Donc là, par exemple, on a des projets de recherche sur les virus véhiculés par les chauves-souris. Les chauves-souris véhiculent beaucoup de virus, mais ça ne veut pas dire que ces virus vont passer sur l'homme. C'est pas parce qu'on va trouver des virus potentiellement embêtants sur les chauves-souris qu'immédiatement il y a un risque. Il y a un risque si, par exemple, je sais pas, le nichoir il est juste à côté de la table de pique-nique. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre l'ensemble des conditions qui font que le passage de ces pathogènes va se faire. Et donc après, une fois qu'on a compris ce qui se passe, on l'évite et puis il n'y a plus de problème. Donc et puis surtout, on continue de bénéficier de toutes les bonnes choses que la biodiversité nous apporte.
Dans le cadre de la démarche qui est la vôtre, il y a une démarche vulgarisation, consultation du territoire, alors on l'a dit, des différents acteurs qui composent celui-ci, et puis on va dire le grand public aussi.
Oui, en fait on a un travail aussi, on essaie donc d'informer, de vulgariser, d'éduquer, et c'est pas toujours simple. Si vous prenez par exemple, plus il y a de biodiversité, plus vous allez avoir de pathogènes, c'est normal parce que chaque espèce héberge un cortège de pathogènes. Bon. Mais paradoxalement, le risque de transmission à l'espèce humaine est diminué parce qu'il y a ce qu'on appelle des effets de dilution. Si vous prenez par exemple des pathogènes qui sont transmis par des moustiques, s'il y a une forte biodiversité, les moustiques vont piquer plein d'espèces, y compris des espèces qui n'ont aucune chance au parasite de finir son cycle. Donc ça veut dire que pour le parasite, il y a plein de piqûres perdues. Hein. Quand vous avez une forte biodiversité, vous avez de la prédation, vous avez de la compétition. Tout ceci limite la prédation quand il y a des animaux malades, ils se font manger et puis c'est terminé. Voilà. Donc beaucoup de diversité, beaucoup de pathogènes, mais un risque diminué de transmission à l'homme. Et si vous réduisez la biodiversité et que, hélas, vous vous retrouvez avec 3-4 espèces qui font circuler un pathogène transmissible à l'homme, là, le risque, il est augmenté. Donc, en fait, on a moins de pathogènes, mais un risque plus fort. Voilà. Donc, tout ça, il faut l'expliquer aux gens. Hein. L'expliquer et puis, si possible, expliquer aux jeunes, puisqu'a priori, ce sont nos futurs leaders et c'est important qu'ils aient cette compréhension spontanée, inhérente, des liens complexes entre la santé des hommes, des écosystèmes et des animaux.
Et alors, vous avez parlé, lorsqu'on a préparé aussi l'interview, c'est aussi des interactions au niveau du psychisme humain, je vais y arriver, les grands défis qui nous sont lancés, les maladies mentales. Et là aussi, il peut y avoir une sorte d'interaction avec l'environnement.
Oui, tout à fait. Donc, on vous a parlé des axes de recherche prioritaires, donc que sont les maladies zoonotiques, que sont aussi l'antibiorésistance, on en parlera peut-être. L'écotoxicité, il y a un axe qu'on a co-construit avec les acteurs du territoire, c'était la santé mentale en lien avec l'environnement. Parce qu'il est vrai que au-delà des bénéfices dont parle Frédéric, de la dilution que permet cette biodiversité en termes de pathogènes, vous avez tous eu l'expérience, et évidemment on est sur un territoire extraordinaire, d'avoir simplement le bonheur de la contemplation, le calme, etc. Donc, si vous voulez, et la crise du Covid aussi a révélé des effets inverses, c'est-à-dire la privation de cette nature engendrait une certaine forme de souffrance mentale, et d'ailleurs ça a déclenché d'autres formes de consommation de l'espace après la crise du Covid, qui était exagérée par ce manque en fait de nature. Donc les études qui sont en cours, qu'on essaie de faire, de développer actuellement avec un des projets qui s'appelle Express Biocam, c'est de voir comment les effets de cette nature sur les enfants en termes de santé mentale. Et là on travaille avec, vous voyez, la ZACAM, c'est aussi des concentrer la recherche. Ben, on a des gens qui viennent de l'université de la Côte d'Azur, de Nîmes, de Montpellier, avec différentes spécialités en psychologie environnementale, en économie, qui vont travailler sur ce sujet de la santé mentale des enfants vis-à-vis de leur environnement. Et on le fait avec par rapport à votre question sur les acteurs du territoire, évidemment, on va le faire avec les écoles, on le fait avec le CPE Rhône-Arles, on le fait aussi avec l'hôpital d'Arles, savoir comment ça va traduire en termes de RSE. Vous voyez, il y a la ville d'Arles, il y a tout un cortège, je veux dire, d'acteurs, donc les gens de l'UMA aussi en termes de vulgarisation, voilà, et le musée de Camargue, évidemment le parc régional de Camargue, vous voyez, un tas d'acteurs qui dans la réalité interviennent d'une façon ou d'une autre dans ce processus de co-construction et d'études.
Donc vous l'avez dit, nécessité de, ou des fois l'envers de la médaille avec cette envie d'avoir de l'espace, de profiter de l'environnement et tout. Mais moi je me dis, l'environnement, oui c'est bien, ça nous apaise, c'est contemplatif, on se sent bien. Mais est-ce que l'environnement pourrait pas être aussi nocif pour notre...
Alors, nocif, bon, en tout cas ça peut apporter de l'éco-anxiété. Il y a plein de raisons d'être éco-anxieux en Camargue, entre la montée du niveau de la mer, la salinisation des sols, les pathogènes transmis par les moustiques, des canicules. Donc il y a des raisons d'être éco-anxieux en Camargue. Donc nous on regarde les deux aspects, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à dire « Ah, la nature c'est merveilleux, il n'y a aucun problème », on n'est pas à noircir le tableau non plus. on fait de la science, on est au CNRS et donc on regarde les différents aspects avec des professionnels de la santé mentale et puis les acteurs du territoire. Donc là, c'est le projet dont parle Nathalie, il va reposer sur un substrat qui est des dessins. On va demander aux enfants de dessiner leur environnement et dessiner des scientifiques de l'environnement. Et puis ensuite, on a des laboratoires d'intelligence artificielle qui nous aident à analyser tous ces dessins. Et puis ensuite, c'est le travail des scientifiques, y compris de la santé mentale, d'analyser tout ça et puis d'essayer de comprendre. On a même des projets d'applications concrètes. Hein. Vous savez, au même titre que vous avez aujourd'hui, avec votre téléphone, photographier une plante et puis on vous dit ce que c'est. Bientôt, on espère qu'on aura la possibilité, à partir d'un dessin d'enfant, de proposer aux gens d'appréhender le lien qu'ils ont à la nature. Est-ce qu'ils sont plutôt dans l'éco-bonheur ou l'éco-anxiété voilà.
Oui, tout à fait. Donc, par rapport à cette proposition, c'est aussi de voir, vous savez, on parle du concept des enfants d'intérieur. Peut-être que ça va aussi informer les parents de ce manque de lien vers l'extérieur. Et donc, ça, c'est quand même... on a fait une étude exploratoire pour tester le protocole. Effectivement, ce qui est apparu sur les enfants de deux écoles élémentaires d'Arles, c'est la présence... très très important de ces écrans, hein, des écrans qui remplissent l'univers des enfants, finalement l'univers mental. Donc c'est quand même révélateur d'un décrochement par rapport à la nature. Donc est-ce que ces enfants fréquentent plus l'espace extérieur ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. Mais par rapport à la question que vous avez posée, voyez, ça fait aussi le lien avec est-ce que l'environnement est toujours bon? Faut se poser la question sur des milieux comme les zones humides qui sont si fragiles, des étangs qui peuvent être subir aussi. Vous avez sur la Camargue, vous avez un espace qui dans la réalité est totalement différent. À l'est, vous avez toute une zone industrielle et quelque part, nous, on est récipiendaire des activités qui s'y déroulent, même si on n'est pas forcément dans l'espace, bien que Fos en fasse partie, donc Port-Saint-Louis aussi. Vous avez quand même une zone qui est récipiendaire de la pollution du Rhône, des activités du Rhône, etc. Donc est-ce que tous ces environnements en termes de pollution qu'on peut retrouver dans l'eau, mais aussi dans l'air, etc., sont bons en termes de santé, c'est aussi le terme des études que l'on peut conduire, qu'on cherche à développer pour justement qualifier ce lien au plan de la santé humaine et la santé animale. Il ne faut pas oublier aussi les animaux d'élevage. Hein, donc il y a plein de choses à conduire au niveau de l'homme et de la nature.
Oui, et moi j'ai l'impression que c'est vraiment tout azimut et c'est assez large comme... prisme
c'est très large. En fait, l'approche One Health, c'est vraiment une approche holistique de la santé. Et puis, la santé, on le sait, il y a différents problèmes. C'est pas uniquement les agents infectieux. Il y a des problèmes d'écotoxicologie. On a parlé de la santé mentale. Il y a l'antibiorésistance. Il y a les cancers. Voilà. Donc, en fait, c'est, par définition, ça peut être que très large. Et puis ensuite, on a des spécialistes de l'environnement, de médecine, de sciences humaines et sociales. Donc, c'est un dispositif qui est extrêmement inter- et transdisciplinaire. C'est ça aussi qui caractérise les zones ateliers et c'est au travers de cette richesse conceptuelle et méthodologique qu'on peut justement appréhender des problèmes complexes et puis essayer d'avoir une co-construction. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une zone atelier, c'est avant tout un espace de rencontre entre des scientifiques issus de différentes disciplines, des gestionnaires, des associations, des collectivités et tous ces gens travaillent ensemble sur des questions concrètes du territoire. Et la zone atelier va nous aider à structurer nos projets. Et ceci va avoir au moins deux effets positifs. Le premier, c'est d'accélérer la vitesse d'acquisition des connaissances scientifiques. Et le deuxième effet, c'est d'accélérer la mise en pratique de solutions. Donc on passe plus vite de la phase recherche à la phase solution. Et ça, c'est vraiment intéressant.
C'est moderne comme démarche.
Alors ça existe, les zones ateliers, certaines ont plus de 25 ans, donc c'est pas un concept qui est complètement nouveau. Par contre, je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait que c'est vraiment comme ça qu'on peut régler les problèmes. C'est pas une seule discipline, c'est pas des scientifiques dans leur tour d'ivoire qui produisent de la connaissance et puis ils s'imaginent qu'une fois que la publication est sortie, un élu local va aller lire ça en anglais et puis dire du coup j'ai vu ça, faudrait peut-être faire ça. Ça, on sait que ça marche pas. Donc on sait qu'il y a bien sûr la production de recherche scientifique, sans recherche scientifique on fait rien, mais avec cette recherche scientifique ensuite il faut clairement avoir une autre démarche pour aller discuter avec les gens, convaincre et puis arriver à des solutions concrètes quoi. Et donc ça c'est un concept, je pense qu'on est de plus en plus tous conscients que c'est comme ça qu'il faut procéder.
C'est très pragmatique. Vous parlez d'antibiorésistance. Alors moi, j'ai entendu quand on est malade, hein, on dit bon allez, on va essayer tel antibiotique, on va voir si vous êtes, si la maladie est réceptive et tout ça, si ça marche. Bon, si ça marche pas, dans une semaine, on fait un autre traitement. Et là, dans l'environnement, c'est quoi cette antibiorésistance ?
C'est une grande question. En fait, l'antibiorésistance, faut savoir que c'est un phénomène qui est naturel. À la base. Hein. Les bactéries ont tous des capacités d'antibiorésistance. Elles utilisent même ceci pour interagir entre elles dans le cadre d'interactions compétitives. Le vrai problème, c'est que l'homme, au travers de son activité, notamment l'utilisation abusive d'antibiotiques, est en train de sélectionner de façon à exacerber ces bactéries. Et donc ça, c'est un vrai souci parce que ça veut dire que d'ici quelques temps, c'est même presque déjà le cas, et là, j'ai envie de dire, nos médicaments, nos antibiotiques ne fonctionneront plus. Donc là, on avait un outil qui était fantastique quand on est malade et on est en train de détruire notre propre outil par une utilisation abusive. Et donc, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que l'antibiorésistance, il y en a dans l'environnement. On a mené, avec la Tour du Valat, par exemple, des études dans lesquelles on s'est aperçu que des jeunes goélands leucophées, des poussins qui ont 2 semaines, 3 semaines, sont déjà porteurs de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. L'explication la plus probable, c'est que leurs parents, c'est un goéland qui est très opportuniste, leurs parents viennent s'alimenter dans nos décharges, dans nos poubelles, et ensuite, ils ramènent ça à leurs poussins. Voilà. Donc en fait, un des enjeux, c'est de comprendre d'où vient la circulation de cette antibiorésistance dans les écosystèmes. L'antibiorésistance, c'est vraiment pas un problème qui se limite à l'hôpital. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la fin de l'histoire. Hein, c'est tout un système, l'antibiorésistance. Donc, qu'est-ce qui fait que ça circule? Comment ça va nous revenir comme un boomerang si on ne fait pas attention sur les règles qui en sont à l'origine et comment ça circule? Voilà. Donc là, il y a beaucoup de recherches et c'est vraiment, c'est pour des enjeux qui sont extrêmement importants pour la planète, pour la santé.
Et donc, comme vous l'avez dit, on va retrouver des marqueurs dans l'environnement qui vont nous dire, ah, là, il se passe quelque chose qui n'est
pas
normal.
Oui, alors on peut étudier, c'est ce qu'on a fait et on s'était aperçu, ça marche très très bien. Bon, on n'est pas les premiers à avoir montré ça, mais on s'est aperçu que la fréquence de bactéries antibiorésistantes augmente au fur et à mesure qu'on a un gradient d'urbanisation. Hein? Donc par exemple, même sur le domaine de la Tour du Valat, qui est en réserve depuis 1964, je crois, si je me souviens bien, on a quand même un petit peu d'antibiorésistance qui circule. Mais c'est rien à côté d'exploitation agricole ou de bassins d'épuration. Voilà. Donc en fait, plus on monte dans le degré d'anthropisation, plus on sélectionne ces bactéries antibiorésistantes.
Vous avez parlé d'un autre défi, c'est l'impact peut-être de l'environnement sur certains cancers. Là aussi, il y a des études à mener?
Alors c'est un cinquième axe qu'on essaie de mener au sein de la zone atelier Santé Environnement Camargue. Alors moi je travaille avant tout sur le cancer, ma première activité de recherche c'est sur le cancer avec le prisme des sciences de l'écologie et de l'évolution. Et on sait que l'immense majorité des cancers sont dus au fait que nos gènes vont tomber malades au cours de notre vie. Hein. Il y a bien sûr quelques cancers qui sont dus à des mutations congénitales, donc ça c'est une autre affaire, mais dans l'immense majorité des cas, les gens naissent avec des gènes qui sont sains et puis les gènes vont muter au cours de la vie. Et puis si les mutations touchent hélas des zones sensibles qui sont impliquées dans la prolifération des cellules ou l'apoptose, hein, quand les cellules se suppriment elles-mêmes, ça peut arriver à des cancers. Et donc là on est sur des causes environnementales par définition, hein, tout ce qu'on appelle l'exposome. Hein. Donc en fait au cours de la vie nos gènes vont tomber malades. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'aimerais beaucoup développer en Camargue avec les cancers chez les humains mais aussi dans la faune sauvage. Hélas...
La faune sauvage oui. est aussi touchée
bien
par ces
sûr,
pathologies.
Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que le cancer ne se limite pas aux animaux domestiques et aux humains. Le cancer, en fait, est apparu il y a plus d'un demi-milliard d'années et touche quasiment tous les animaux qui ont plus de 2 cellules, dès lors qu'il y a une cellule qui n'est pas d'accord pour collaborer avec l'autre, si je fais simple. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les causes, les facteurs environnementaux sont exacerbés par rapport à nos défenses anti-cancer. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de cancers dans la faune sauvage, absolument. Et ça, on ne sait absolument pas comment ça va modifier le fonctionnement des écosystèmes. Ce n'est pas la même chose si c'est des prédateurs qui sont touchés, si c'est des proies, etc. Donc là, il y a tout un champ de recherche qu'on mène dans mon laboratoire à l'heure actuelle par des travaux en modélisation, par des expérimentations au laboratoire aussi.
Et alors, question pour être précis, c'est intrinsèque à l'environnement, c'est-à-dire que la nature peut avoir un impact sur nos développements de cellules ou c'est bien des interactions avec le monde moderne, on va dire, entre guillemets nos vies quotidiennes, les produits que nous utilisons,
ah bah tout ça,
les machines.
En fait, bien sûr. Donc, la plupart des cancers aujourd'hui sont dus à ce qu'on appelle un mismatch, c'est-à-dire un décalage entre les conditions dans lesquelles l'humanité a fait toute son histoire et puis le monde moderne. Donc clairement, on mange trop, on bouge pas assez, on boit, on fume. Et tout ceci pour des défenses qui sont toujours celles d'hier. Les processus d'évolution sont relativement lents. Alors peut-être que d'ici quelques milliers d'années, on pourra manger toutes les saloperies qu'on mange à l'heure actuelle et puis on n'aura plus les désagréments cancéreux, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc il y a deux solutions, c'est de savoir si on a envie de faire partie de l'épisode de sélection, bon c'est peut-être pas la meilleure des choses, soit d'essayer de comprendre comment les conditions modernes influencent les probabilités de développer ces pathologies. Et donc en fait ça c'est tout notre mode de vie moderne, c'est les polluants, tout ce qui est mutagène dans l'environnement. Voilà.
Et dans la recherche qui est la vôtre, vous êtes une étape justement autour de ce travail des cancers, c'est-à-dire qu'après il y a d'autres spécialistes qui vont agir à d'autres étapes pour les traitements éventuels, les stratégies à observer, comment ça se passera ?
Ben en fait là actuellement ce qui est passionnant qu'on développe, c'est que ce sont des thérapies basées sur les sciences de l'évolution, c'est-à-dire que le cancer est une entité vivante qui évolue en temps réel dans le corps. Hein. Et d'ailleurs quand on traite et que le traitement marche et soudainement ne marche plus, c'est parce qu'on a sélectionné des cellules résistantes. Donc c'est vraiment un processus évolutif depuis son origine même dans l'histoire de la vie avec l'aube de la multicellularité jusqu'à son développement en temps réel. Donc là, ce que l'on fait actuellement, c'est qu'on utilise les connaissances scientifiques en écologie et en évolution pour prédire comment, dans un écosystème très particulier qui est la tumeur, comment on peut guider la trajectoire d'un cancer. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à l'éradiquer, parce que si on fait ça, on va sélectionner des résistants et puis on arrive dans le mur, et c'est la raison pour laquelle on meurt du cancer, hein, c'est que nos thérapies, qu'il faut bien sûr appliquer, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais la façon dont on les applique nous amène à sélectionner de la résistance, et puis quand on a sélectionné jusqu'à la dernière solution, on meurt du cancer. Donc nous, ce qu'on essaie, c'est avec la connaissance en écologie, en évolution, c'est de guider la trajectoire des tumeurs pour ne pas arriver à cette situation-là. Et ça, c'est passionnant et on a des beaux résultats.
Hein, oui, la question, voilà, justement, c'est... Est-ce que dans toutes ces stratégies dont on entend parler, qui sont au niveau de la recherche, qui sont dans les balbutiements des premiers tests sur des êtres vivants et avec des espoirs assez considérables, est-ce que justement c'est le fruit de votre travail ou de vos collègues qui travaillent un petit peu sur les mêmes thématiques ?
Alors il y a des thérapies basées sur les sciences de l'évolution qui ont clairement conduit à des solutions qui fonctionnent très bien, par exemple sur les cancers de la prostate. Hein, on s'aperçoit que si on traite avec des chimiothérapies, des traitements extrêmement agressifs, on va tuer toutes les cellules sensibles et les résistantes vont gagner deux fois, d'abord parce qu'elles ne sont pas tuées et ensuite parce qu'elles n'ont plus aucun compétiteur. Et donc en fait, certains collègues basés en Floride ont mis au point des thérapies qui consistent à tuer seulement une fraction des cellules sensibles pour garder un équilibre compétitif entre les résistantes et les sensibles. Et donc ça fonctionne assez bien, la médiane de survie est bien augmentée chez les patients.
Oui, on en a parlé récemment, on va dire, dans l'actualité grand public, hein, de ces nouvelles voies de recherche, hein, il me semble. Vous allez fédérer bien sûr ce travail de recherche. Vous l'avez dit, les habitants seront concernés, on a parlé d'outils, pourquoi pas, qui seraient accessibles. Il va y avoir comme ça des canaux de communication, de contributions qui vont se mettre en place petit à petit dans le cadre de vos diverses recherches.
Oui, la zone atelier, elle est clairement faite pour ça. D'ailleurs, en fait, quand je reviens à une question que vous aviez posée, est-ce que c'est une démarche nouvelle ? Ce qu'il faut savoir, donc la démarche OneL, c'est le début des années 2000, mais la zone atelier Santé Environnement Camargue, c'est quand même la seule à l'échelle de toutes les zones ateliers qui est vraiment focalisée sur les questions de santé environnement et dans une démarche OneL. Les canaux dont on parle, donc là, santé humaine, santé des écosystèmes, santé animale, sauvage et domestique, hein, santé humaine, c'est vraiment un triptyque nécessaire pour justement construire des réseaux. À la fois des réseaux de surveillance, il y en a plein, hein, donc c'est travailler aussi avec des gens de l'ANSES, c'est travailler avec des gens de l'OFB, c'est travailler avec des hôpitaux, c'est travailler, et donc toute l'utilité, c'est de construire ces réseaux pour que les canaux de communication et d'interaction soient les plus nombreux possibles pour justement conduire des études avec et pour la société. Et donc là, c'est évidemment tout un travail, quelque part, de réseautage, hein, mais on va dire de réseau. Les zones ateliers, comme je vous ai dit, c'est à l'échelle nationale, c'est quand même 18 zones ateliers. Il y a maintenant, dans l'infrastructure de recherche, plus de 30, on va dire, dispositifs avec les observatoires au milieu. Et tout ce travail-là permet, on va dire, de on va dire, se diffuser à l'échelle du territoire. Alors, évidemment, on a les événements qui rythment la vie d'un dispositif comme le nôtre, mais on a des restitutions. On a des restitutions aussi qu'on va essayer de diffuser par des canaux qui ne sont pas forcément les habituels. Aller à la rencontre des habitants, par exemple, à l'hôpital, ou pour des expositions, de manière à toucher le plus grand nombre de personnes. Ça, c'est vraiment important.
On en a parlé avec les personnes de l'OFB qui me disaient, ben oui, parmi nos missions, il y a aussi une mission de comptage ou de relevé d'informations pour servir d'autres structures, hein, bien sûr, qui auraient besoin de nos constatations sur le terrain. Il joue le rôle quelque part un petit peu de vigie également, quoi.
Juste pour ajouter par rapport à ce travail de réseau, vous voyez donc ce qu'a expliqué Frédéric par rapport à au projet Zoukam sur les zoonoses, et bien c'est clairement que par exemple les échantillons servent à d'autres projets. On a parlé de l'information, de la donnée, et bien dans le programme prioritaire de recherche donc sur les zoonoses, vous avez deux programmes qui s'intéressent à des questions qui sont voisines, mais pas les mêmes du tout. Et bien par contre, on va partager nos échantillons de manière à gagner du temps. Donc c'est des petites choses comme ça qui vous paraissent anodines, mais dans la réalité, quand ils vous prélevez dans des milieux, c'est un temps considérable. Et donc ça va accélérer.
Ces échantillons, ils sont récoltés par des acteurs du territoire. Là, dans sept sites de Camargue, dont le Viguera, mais aussi le Scamande, la Tour du Valat, Pont de Gaux, etc. On a donc des naturalistes, des professionnels de la nature, qui nous collectent des FSS, des crottes, hein, de différents types d'animaux, parce qu'on s'intéresse en l'occurrence au virus de mammifères. Et donc en fait, ce travail se fait grâce à l'implication donc des acteurs locaux. Et puis ensuite, on va faire de la virologie dessus. On va regarder l'antibiorésistance. On peut même regarder des polluants. Voilà. Et donc on va partager, mutualiser ces échantillons. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans la zone atelier, on a aujourd'hui une vingtaine d'unités de recherche, près de 200 chercheurs, hein, qui sont entre guillemets mobilisables. Et ce qu'il faudrait, c'est alors ça fait simplement 2 ans qu'on a été labellisé, mais à terme, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une sorte de réflexe immédiat. S'il y a un problème santé-environnement en Camargue, eh bien, saisissons la zone atelier. Est-ce que peut-être la zone atelier peut mettre une équipe de recherche dessus? On peut construire un financement, co-construire, j'ai envie de dire, avec les acteurs locaux pour essayer de répondre aux questions. Et puis, je crois qu'il faut que les gens se disent que c'est une très grande chance d'avoir une zone atelier dans un endroit donné, parce que ça veut dire que quelque part il y a de la surveillance qui est faite, il y a des chercheurs, et puis tout ceci en co-construction. C'est vraiment important d'avoir une zone atelier, parce que vous savez, on va faire des recherches en santé, bon, on va forcément trouver des choses entre guillemets embêtantes. Si on fait bien notre travail, a priori c'est ce qui est prévu, et si on recherche des virus dans la faune sauvage, on va bien sûr en trouver. Mais ce qu'il faut surtout après, c'est rassurer s'il y a des risques ou pas de risques, et puis expliquer. Voilà. Donc en fait, il y a tout ce travail d'explication aussi à faire. Mais il faut vraiment retenir l'idée que c'est une grande chance d'avoir une zone atelier dans un territoire.
Et surtout le partage de données, puisque vous avez parlé d'outils particuliers d'analyse, hein, type IA ou autre, et on sait que l'IA, quand elle est bien utilisée, bien entendu, permet de faire gagner un temps fou aux chercheurs, aux personnes qui réfléchissent justement à trouver des indices dans ces analyses, dans ces datas. Et c'est vraiment le cap qui est choisi, c'est-à-dire un partage de la donnée.
Oui, partage de la donnée. Ça, c'est dans la philosophie, dans l'ADN des zones ateliers. Il y a vraiment la donnée doit être libre, accessible pour les acteurs, pour les autres scientifiques. Ça, c'est vraiment un principe de base.
Voilà. Et donc, on pose une question et qui se sent légitime ou avoir réfléchi sur le sujet pourrait dire « Ah, j'ai trouvé un indice qui pourrait laisser penser que… »
C'est ça, ou alors de dire on peut déposer un projet, on avait déjà des choses en tête, donc du coup maintenant ça devient limpide et concret avec des propositions, des demandes très précises des acteurs. Déposer un projet, trouver de l'argent. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est que les zones ateliers, comme ce sont des labels très prestigieux, ça peut arriver qu'on nous donne de l'argent. et qu'on nous dise voilà, on vous donne de l'argent et essayez de, en interne de trouver quelque chose. Donc en fait, voilà, c'est...
Voilà. Quand vous dites on peut trouver de l'argent, c'est quoi? C'est des mécènes privés, c'est des certaines
de
officines
tout.
De l'État qui disent tiens, il y a quelque chose d'intéressant.
Il y a de tout, absolument. Voilà. Le projet à 3 millions qu'on a eu, c'était l'initiative PRESOD, donc prévention du risque zoonotique, qui avait été initiée par Emmanuel Macron en 2021. Aujourd'hui, il y a plus de 100 pays signataires, hein, dans le monde. Et donc, du coup, bah, il y a de l'argent et du coup, il y a des appels à projets. Et puis, on a déposé ce projet en Camargue, on l'a obtenu. Alors là, on a eu le groupe Engie qui a voulu également soutenir la zone atelier santé environnement Camargue. Voilà, donc nous on prend, hein, s'il y a des gens qui veulent donner de l'argent au CNRS, hein, ils ne le donnent pas directement, je précise.
Oui.
Cet argent est donné au CNRS, à la fondation CNRS, et ensuite cet argent est redistribué et nous on essaie de mobiliser des chercheurs sur place, si possible, pour répondre à des questions précises.
Voilà. Et alors, justement, vous parliez de cette influence internationale, puisque c'est une méthode qui est utilisée ailleurs. Est-ce que ce partage de données, il est aussi à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est au niveau national, régional, que l'on partage cette information?
Non, c'est au niveau international et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que dans l'approche PRESOD, il y a plusieurs piliers. Donc le premier, c'est de la recherche scientifique pour identifier le risque, parce qu'on ne peut rien faire si on ne sait pas quels sont, par exemple, les pathogènes qui circulent dans un écosystème. Une fois qu'on a identifié ce risque, le deuxième volet des recherches, c'est de transformer ça en solutions concrètes. Même si on est très fort sur ces deux aspects, il ne faut pas se mentir, il y aura toujours des loupés, et il y aura toujours des émergences et des épidémies qui vont redémarrer. Donc là, le troisième pilier, c'est d'être capable de sauter dessus aussitôt que ça démarre pour éviter que ça se transforme en épidémie, voire en pandémie. Et puis le quatrième pilier pour répondre à la question, c'est vraiment le partage des données entre les différents pays de la planète, parce qu'on le sait aujourd'hui, une émergence n'importe où dans le monde, on l'a déjà vu en quelques semaines, peut se transformer en une pandémie. Donc bien sûr qu'il faut que les scientifiques communiquent entre eux, mais pas simplement entre scientifiques, c'est vraiment un travail interdisciplinaire. Il faut qu'il y ait vraiment différents compartiments qui soient mobilisables en un temps record. Alors on a vu avec la Covid-19 qu'on était loin de l'intégration parfaite de tous ces enjeux, mais là on le voit, on est quand même de plus en plus performant, c'est-à-dire qu'on a quand même appris des choses, hein, avec ce qui s'était passé.
On a vu des gens aussi se mobiliser dans différents domaines et trouver des solutions pragmatiques pour pallier à des manques.
Et puis évidemment le cinquième pilier qu'a récemment rajouté cette initiative, eh bien c'est d'essayer de convaincre les partis politiques, tous les décideurs en tout genre, des bonnes pratiques à adopter pour éviter que le problème survienne.
Si vous êtes d'accord, on va proposer à notre assistance d'éventuellement poser des questions. Alors je vais prendre un micro.
Ou des remarques.
Voilà, et des remarques et des réflexions, bien entendu. Si notre ami Marcel est d'accord, je vais couper mon micro et démarrer un autre micro, voilà, qui me permettra de me déplacer auprès de nos invités spectateurs. Alors, j'ai changé de micro, c'est parfait, je suis mobile, je vois une personne que je connais, que je vais présenter, monsieur Jean-Laurent Lucchesi, qui est dans le mouvement associatif, bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter et présenter aussi votre association.
Jean-Laurent Lucchesi, je suis membre de plusieurs associations, dont une association qui s'appelle Vigara Nature, qui travaille sur cette partie de la Camargue, qu'on appelle le plan du bourg. Je suis aussi au conseil d'administration du CPU Rhône-Pays d'Arles et membre de FNE13. Donc j'ai une question, alors merci, parce que c'est passionnant et c'est rassurant. Ce territoire particulier de l'est de la Camargue comprend la zone industrielle de Fos. Un grand débat a eu lieu ce printemps, cet été, l'été dernier, et a montré que ce territoire va avoir de grosses modifications. Et notamment, il est prévu de réindustrialiser, de décarboner. Et donc, il y a 51 projets industriels qui sont imaginés pas que sur Fos, mais dans le territoire Berfos. Il y a des lignes très haute tension, il y a des autoroutes, il y a donc une augmentation de camions qui est prévue, hein, donc à l'horizon 2045, 3 millions de camions qui devraient circuler sur les routes, etc. Et ma question, alors bien évidemment, c'est de l'aménagement du territoire. Je pense que la zone atelier est intéressante pour essayer de constater, mais elle est peut-être aussi intéressante pour essayer de prévenir. Donc, est-ce que vous êtes sollicité par les pouvoirs publics pour essayer de mesurer les conséquences de ces aménagements qui vont avoir des conséquences assez fortes sur les aménagements et sur les espaces naturels, hein, qui arrivent aussi dans un lieu où il y a déjà des problématiques de pollution, hein, de pollution de l'air en particulier, hein, avec des taux de maladies particulières qui sont supérieure à la moyenne nationale. Et est-ce que il est possible de mesurer les effets cumulés potentiels sur la santé humaine de tous ces aménagements et d'essayer de conseiller les pouvoirs publics sur des choses à faire ou à pas faire ou à éviter ou à mesurer, hein. Donc on est plus dans le constat que plus dans l'anticipation que dans le constat.
C'est une question très complète, mais Jean-Laurent fait souvent des questions très complètes.
Alors je vais, merci pour cette question. Donc pas plus tard qu'il y a pas une dizaine de jours, nous avons sollicité les services de l'État justement à la suite d'une réunion publique à Fos sur donc justement un certain nombre d'études qui avaient été faites, en particulier sur la santé humaine et en matière de qualité de l'air. Donc clairement, on a provoquer cette réunion avec des gens d'Atmosud, hein, RPACA, Dominique Robin, pour réfléchir, parce que la zone atelier, c'est aussi de l'instrumentation. De l'instrumentation en termes de capteurs, de mesures. Et donc, à partir de là, donc on leur a dit qu'on avait été récipiendaire d'une dotation nouvelle en termes d'instrumentation, et c'était de savoir s'ils étaient intéressés par de l'instrumentation en rapport avec ces questionnements qui évidemment étaient remontés des populations. Et donc c'est une question auquel on travaille avec les services de l'État en faisant des propositions dans ce sens, mais justement pour suivre, comme on peut l'imaginer, le temps de la recherche n'est pas le temps politique. Et donc par rapport aux décisions qui sont faites, en tout cas, nous on a tendu la main aux services de l'État de sorte à pouvoir programmer ensemble une instrumentation à la hauteur des préoccupations des personnes et en toute, évidemment, limite de nos connaissances actuelles. Mais se dire, voilà, on a une dotation par l'intermédiaire de Terraforma actuellement et on réfléchit avec les acteurs du territoire, le parc naturel régional de Camargue, la Tour du Vala, pour instrumenter là où c'est pertinent. Par rapport aux problématiques que vous percevez et dont vous nous parlez, on en a discuté aussi avec Atmosud, Dominique Robin. Donc on va co-construire avec ces personnes et avec les acteurs, on va dire, tout un réseau de surveillance, parce que vous avez parlé du risque et c'est très bien, mais le risque, vous savez, c'est le manque d'informations. Hein, donc à partir du moment où on instrumente, où on a de la donnée, où on a des gens qui font de la recherche, on est dans la prévention, on est dans l'alerte précoce. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on cherche à construire.
Juste si je peux compléter, en fait, un des soucis que l'on rencontre à chaque fois, c'est forcément les moyens financiers. C'est-à-dire qu'actuellement, pour obtenir de l'argent, il faut un projet de recherche. On n'est pas là pour faire du monitoring. On n'est jamais financé pour ça. On est là pour faire des projets de recherche. Et projets de recherche, il faut postuler à des appels à projets. Donc en fait, déjà, il faudrait qu'il y ait une liste d'appels à projets autour du problème que Jean-Laurent vient d'évoquer, en disant, voilà, effectivement, on va faire tout ce qui a été annoncé. Et on aimerait justement qu'il y ait un suivi scientifique. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai envie de dire, on est un petit peu dans l'attente de cette opportunité. Alors après, s'il y a des appels à projets et qu'il y a des sous, là, immédiatement, les chercheurs peuvent se mobiliser, proposer des projets, et puis après, c'est parti. Bon, après, les conclusions, effectivement, comme l'a dit Nathalie, le temps de la recherche est souvent plus long que le temps des décisions politiques, et les décisions politiques sont souvent prises sans que les travaux scientifiques et les données ont été fournis.
Mais en tout cas, il y a une préoccupation et surtout une mobilisation donc, de cette démarche. Est-ce que, s'il y a quelqu'un qui a une autre question, n'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir qu'on vous tendra le micro. Mais en tout cas, merci d'avoir posé cette question, Jean-Laurent, qui est toujours un auditeur très assidu et qui se questionne justement sur l'actualité et l'avenir de notre territoire. Moi, je me pose la question suivante. Je dis, moi, c'est très bien ce que j'écoute sur Soleil FM, c'est très intéressant, mais je me dis, et après, est-ce que là, déjà, aujourd'hui, il existe des sources d'informations sur lesquelles je puisse me connecter, des portes auxquelles je peux taper, entre guillemets, pour obtenir formation, fascicule, je sais pas, de la documentation. Comment ça se passe ?
Oh bah, si vous allez sur Internet et que vous commencez à poser des questions sur ce qu'est l'approche One Health, et puis quels sont les grands exemples sur la planète ou en France ou autre, il y a de l'information qui est accessible.
Hein. Voilà. Et sur la démarche sur ce territoire, il y a ou il y aura
Alors il y aura, on a donc nous un site web qui est actualisé en permanence et qui précise quels sont les différents projets de recherche en cours, les actualités. On réalise des clips également parce qu'on est absolument conscient que pour communiquer, souvent c'est pas forcément la publication scientifique en anglais. Bien sûr qu'elle est importante parce que c'est la base, hein, c'est ce qui nous rend légitime la possibilité de parler. Mais après, pour pouvoir communiquer, on préfère aussi avoir des activités qui seraient plus artistique, hein, dans des clips, ou alors on a eu récemment le procès du sel, qui était quelque chose d'extrêmement intéressant pour faire dialoguer des gens qui d'habitude sont un petit peu opposés dans la façon de voir. Voilà, donc en fait on est ouvert à tout cela dans une zone atelier. Et d'ailleurs, un des aspects qu'on aimerait développer de plus en plus à l'avenir, là encore si on trouve de l'argent, c'est la composante artistique dans les projets de recherche. Hein, si vous parlez par exemple dans d'autres écosystèmes sur le blanchiment du corail, c'est pas les publications en anglais que les gens ont retenu, c'est des dessins de déserts blancs, c'est des documentaires, ces choses comme ça. Donc nous, on est absolument conscients que pour nous aider, nous-mêmes, entre scientifiques, souvent on travaille en silo, à discuter, les activités artistiques, c'est génial. Et puis pour communiquer avec le grand public, c'est génial aussi.
C'est une médiation efficace. Quoi.
Voilà, et puis c'est vraiment plein dans la philosophie d'une zone atelier aussi.
Et le procès du sel, on en a parlé, j'ai un auditeur, parce qu'on avait fait l'interview, qui m'a dit je m'attendais à autre chose et j'avais pas bien compris. Le procès du sel, je me suis dit, oui, on va dire les gentils, les méchants, mais ils ont trouvé que c'était très dynamique, très instructif, et c'était un petit peu l'objet, bien entendu, de ce fameux procès. Je referme la parenthèse. En tout cas, merci du temps que vous nous avez consacré. Il y a peut-être des informations à rajouter avant de se dire
oui,
au revoir.
Oui, parce que le procès du sel, donc Raphaël Matevet fait partie d'un des directeurs de la zone Atelier Santé Environnement Camargue, et vous pouvez le retrouver sur notre site internet, en rediffusion.
Alors le site, je tape quoi ?
ZACAM, donc par exemple Procès du sel ou ZACAM Festival de Camargue, vous tomberez sur nous.
Bon, on va essayer de
alors,
trouver
ZACAM,
l'information.
Alors ZACAM, ZACAM, n'hésitez pas, même les clips, à les regarder jusqu'au bout, à les diffuser. On en a un qui a eu jusqu'à 102 000 vues. Donc
bravo.
C'est très bien, on est très content. Il va y en avoir d'autres, donc n'hésitez pas à consulter régulièrement notre site et puis contribuer à faire connaître nos travaux.
Bon, on va partager ces liens bien sûr sur la page de cet événement, puisque vous pouvez retrouver, en plus de la diffusion sur les ondes, et bien en podcast comme l'on dit, nos échanges sur le www.soleilfm.com, et l'on rajoutera ces liens qui permettra à nos amis auditeurs déjà de faire un premier
merci
pas dans
beaucoup.
La connaissance de vos démarches. À nos micros, je vais le rappeler, nous avons eu le plaisir d'avoir Nathalie Boutin-Richer, ingénieure de recherche CNRS MIVEJEC, on dit MIVE ou MIVE
MIVEJEC.
MIVEJEC, voilà, je l'ai, coordinatrice de la ZACAM 2, et vous-même, donc Frédéric Thomas, directeur de recherche CNRS MIVEJEC, également co-directeur de la ZACAM. Merci à vous pour cet échange instructif et très intéressant.
Merci pour votre invitation.
Voilà, merci à vous de nous avoir reçus, et au Festival de Camargue, aux organisateurs, vraiment, c'est super. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous. Prochain plateau radio, ce sera alors en local à 15h30 ici sur le village de l'Oiseau. On parlera cette fois-ci bien du cheval Camargue, le cheval de l'avenir. C'est la question qui sera posée. Allez, petite pause et on se retrouve dans peu de temps pour d'autres échanges en direct de Port-Saint-Louis-du-Rhône.